Et puis, vraiment, merci encore, Josué, de nous avoir vraiment recentré sur le bon berger. On a eu des chants, tes paroles nous ont vraiment recentré aussi sur cet amour, sur ce berger qui veut nous entourer. Regardez, nous, on fait partie d'une autre église, mais on se sent comme d'une famille aussi en venant vers vous. Et on se sent bien accueillis. Je vois qu'il y a des visages souriants. Voilà, ça fait du bien aussi. Et nous partageons aussi les mêmes valeurs. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire pour se présenter parce que nous étions pêcheurs. Nous avons été rachetés par le bon berger. Et nous connaissons tous cette expérience, même si c'est de manière très variée, où Dieu est venu nous chercher dans nos histoires tellement différentes pour nous ramener, pour faire de nous un seul peuple. Et on a aussi parlé de ce beau chapitre de Jean, où Jésus justement se montre comme un berger, dit « Je veux être un berger ». Alors, est-ce que ça, c'est en route, hein, n'est-ce pas ? Ah voilà, voilà, ce beau chapitre-là. Il veut avoir une relation personnelle avec nous. On est tous d'accord. On la recherche tous. On a tous le défi de renouer avec cette relation. Chaque fois qu'on quitte ce moment avec Jésus, c'est tellement difficile de rester connecté, tellement de voix différentes, de faux bergers qui veulent nous attirer partout, y compris à l'intérieur nous-mêmes, enfin, des tentations, voilà, et toujours revenir vers lui. Moi, j'aime beaucoup cette image. J'ai scanné une carte qu'on nous avait offerte. C'est Luc 15, hein, quand le berger retrouve la brebis perdue, et puis toutes les brebis qui se réjouissent avec lui aussi. C'est beau. Il dit dans ce passage, au verset 3, « Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Voilà. Au verset 11, « Le bon berger donne sa vie. » Pour ses brebis, il donne sa vie. Nous, on lui donne une heure, deux heures. Et un peu quelques décisions, il donne toute sa vie. Il dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Et on sait que chez Jean, le verbe connaître, il est très, très fort. Comme c'est fort, merci Seigneur, pour cette relation intense. Jean 10, chapitre bien-aimé, vous dites, ah, c'est pas la mission, c'est sympa. Oui, c'est ce chapitre qu'on aime bien lire et relire en église, dans nos cultes personnels. Maintenant, c'est Jésus, hein. Il va lâcher une petite bombe quand même au milieu de ce discours. Imagine, tu es avec ton ami, tu as un meilleur ami, une meilleure amie, vous passez du temps ensemble, vous aimez passer ce temps ensemble, vous vous retrouvez, et là, vous pouvez tout vous dire, vous riez ensemble, vous pleurez ensemble. Et puis, à un moment, quand tu ne t'y attends pas, ton ami te dit, tu sais, j'aime beaucoup notre relation. Mais j'avais prévu depuis longtemps de faire le tour du monde. Je voudrais trouver des amis de la même manière, avec la même intensité, la même relation. Et si tu venais avec moi ? Attends, mince, t'avais pas prévu ça ? T'étais bien avec ton ami, à toi, dans votre relation, à vous. Alors je crois que les disciples ont dû vivre un peu ce choc quand leur maître préféré, leur bon berger, au milieu de ce discours, dans ce chapitre, s'est mis à leur dire une phrase qui semblait vraiment totalement différente. Je suis bon berger, je vous aime, on se connaît bien, mais j'ai encore d'autres brebis, oui, d'autres brebis qui m'aiment et que j'aime autant que vous, qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut aussi que je les amène, les sauver. C'est aussi important que vous sauvez. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Eh oui, on est toujours dans Jean chapitre 10, le bon berger. Sauf que c'est pas un hasard, s'il a choisi ce moment d'intimité pour casser l'ambiance cocooning. Aimer, oui. Cajoler, non, c'est pas Jésus. Aimer, oui. Cajoler, non. Alors laisse-toi surprendre par ce Jésus aussi, qui aime te faire grandir, qui aime ton Église aussi, mais ce Jésus qui colle pas trop avec cette image de mon bon berger à moi ou notre bon berger à nous, entre nous, communauté. Un berger qui te dit au sein même de votre affection réciproque, si rassurante, allez, Il y en a d'autres. Il y a le monde à aimer comme je vous aime. Allons-y ensemble. Alors voilà, ma prière ce matin, c'est de vous faire aimer ce verset aussi. De faire en sorte que vraiment vous compreniez l'amour de Jésus pour vous aussi à travers cet amour pour le monde entier. Alors oui, au bon berger et non au cocooning. J'ai encore d'autres brebis, d'autres. Là, c'est le mot-clé, c'est autres, les autres. Ah, parlons-en des autres. À l'époque, la terre d'Israël est envahie par les autres. Et les disciples, ils s'attendent justement à ce que Jésus s'occupe des autres, mais pas comme Jésus est en train de leur dire. Ils attendent une déferlante de puissance contre les autres. Et voilà que celui sur qui ils misent tout leur dit que parmi ces autres, il y en a qui sont à lui. J'aime bien aussi ce présent. C'est pas encore, hein. Ils seront à lui, mais lui, il le voit déjà. J'ai d'autres brebis. Et il y en a qui l'aiment et qui font partie de la famille de Dieu. Vous imaginez le choc pour ces juifs? Hein, j'imagine Pierre qui avait toujours quelque chose à dire. Là, je crois que il avait le bec cloué. On vit dans une période troublée. Vous êtes d'accord avec moi? Les États s'enferment dans leur protectionnisme. Les conflits armés éclatent de partout. Niveau personnel, c'est pas bien mieux, hein. Vous allez sur les réseaux sociaux, on s'insulte, on ne sait plus débattre, on préfère combattre, ou alors s'isoler, être dans l'indifférence, ne pas prendre parti. On vit dans une période troublée, et ce trouble, il a une cause. Le repli sur soi, l'égoïsme, l'individualisme partout. Mes droits, donnez-moi ce à quoi j'ai droit, même dans l'Église. L'Église a le devoir de me donner le bonheur qu'elle m'a promis. Où sont mes droits? Alors, tes droits, mes droits, ils sont... Ah voilà, je cherche toujours s'il y a une croix dans l'Église. Ils sont là. Sont crucifiés, avec toi, avec moi. C'est ça le chemin que Jésus a montré. Alors bien sûr, dans un monde replié sur lui-même, dans un individualisme exacerbé, c'est un choc d'entendre notre bon berger, notre Seigneur personnel, parfois même mon Jésus à moi, portatif, privé, qui nous dit « Hey, aime ton prochain comme je t'aime, au point de le mettre au-dessus de tes intérêts personnels. » Moi, je t'aime et je l'aime comme je t'aime. Allez, si on allait ensemble lui dire. Pas seulement ici, hein, il dit, mais là-bas aussi. Elles ne sont pas de cette bergerie, elles ne sont pas de la bergerie d'Israël. Elles ne sont pas des vôtres. Et les autres bergeries, c'est ces fichus samaritains, c'est ces envahisseurs de Romains, c'est ces barbares de Grecs, puis plus tard, ces gens d'un autre continent qu'on ne comprend pas. Alors, on n'aime pas tout le monde, hein, ça c'est d'accord, mais on n'aime surtout pas ceux que l'on ne comprend pas. Et c'est toujours les autres cultures qui ont des habitudes bizarres. Hein. Vous saviez qu'en Inde, les hommes se tiennent la main pour prouver leur amitié, pour montrer, manifester leur amitié. Ils se tiennent la main entre hommes. Oh, c'est bizarre quand même. Et c'est sacrilège de tenir la main à sa femme. Ah, merci pour la réaction. Oui, c'est ça. Chérie, je t'aime, mais les latinos, il faut dire qu'ils ont une vision un peu flexible du temps. Et c'est pas évident quand on est un Européen qui arrive en Bolivie ou un pays d'Amérique latine, un Européen qui aime planifier, qui aime faire des projets, anticiper à l'avance. Et puis voilà que les projets là-bas, oh bah, toutes les 5 minutes peuvent changer, c'est pas très grave. Voilà. Ok. Et puis, quand on va se marier, vous êtes d'accord qu'ici, ben, ça prend quand même quelques mois, parce qu'il faut louer une salle, c'est pris, il faut avertir les amis, la famille, qui ont des agendas surchargés. Alors, chérie, il faut donner les faire-part de mariage. Il y a plus que 3 mois. Oula, calme-toi, Fred. 2 semaines maximum d'anticipation. 2 semaines. Et c'était vrai. Waouh. Alors maintenant... Si vous leur demandez ce que eux ils pensent des Français, ou ce qu'ils pensent aussi des cultures, de la culture alsacienne, vous allez en prendre pour votre grade aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, on est tous au même niveau à ce niveau-là, hein. On est tous bizarres pour ceux qui ne sont pas de notre bergerie. Donc c'est normal, c'est pas évident d'aimer sincèrement ceux qui ne sont pas comme nous. Et Jésus dit, « Chers disciples, je ne suis pas venu que pour les Juifs, je ne suis pas venu que pour vous, je suis le sauveur du monde. » Vous savez, cette expression existe dans l'évangile de Jean. Le sauveur du monde, tu es le sauveur du monde. Vous savez qui a dit ça? C'est pas des Juifs, c'était les Samaritains. Le village de Samaritains qui, après le témoignage, la femme samaritaine s'était tournée vers Jésus et qui avait dit, tu es le sauveur du monde. C'est des non-Juifs qui avaient mieux perçu la portée universelle du ministère de Jésus. Les Juifs n'arrivaient pas à ça. C'est fou, hein? Le peuple élu. C'est les exclus de l'Alliance qui avaient compris cette vision. Le petit groupe d'initiés, pas encore. Loin de là, il a fallu beaucoup, beaucoup travailler. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de l'Alliance. Et parfois, j'ai un petit peu peur, nous qui faisons partie du cercle de ceux qui savent, les intimes de Jésus, j'ai peur qu'on ait une vision un peu réductrice aussi de la portée du ministère de Jésus. On est prêt à prendre « Je te bénirai » comme il a dit Abraham. Mais est-ce qu'on se souvient qu'après il a dit « Et alors tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre ?» Alors les 12, on est bien entre nous, mais ne gardez pas votre bon berger pour vous. Les Juifs voulaient un Messie bien à eux, mais le monde était prêt à entendre parler du Sauveur du monde. La moisson est grande, à d'autres endroits il dit la moisson est blanche, ce qui veut dire qu'elle est prête, elle est prête à entendre. Mais comme on a vu, comme Lénie vous a montré, ces points rouges, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent Jésus pour aller leur dire. Ne gardons pas notre Messie pour nous, c'est lui qui nous le demande. Ne faisons pas du sauveur du monde le sauveur de la France, de l'Alsace, de Wittenheim, de Pfastatt. Alors que certains d'entre vous, quel que soit leur âge, se posent la question. Il y a toujours de quoi faire. Peut-être même partir. Hein. Il y a plein de missions, la WEC et bien d'autres, pour partir, voyage découvert, court terme, long terme, qui sait. Et puis, tout plein d'autres façons de rester mobilisé, de permettre à notre Église de rester connectée à ce mouvement, de ce Dieu en mouvement dans le monde, pour sa gloire. Quelqu'un a dit, l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de la mission. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous devenons intensément missionnaires. Ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, on connaîtra jamais pleinement notre bon berger si à un moment, on ne se laisse pas sensibiliser par ces autres bergeries qu'il veut toucher aussi, qu'il veut atteindre. Et en fait, on apprend un nouvel aspect de Jésus qu'on ne peut pas apprendre si on reste dans notre cadre très fixe, très limité. Et c'est toujours bon d'en savoir plus sur Jésus, non? Parce que plus on le connaît aussi, plus on connaît la personne qu'il veut façonner en nous. Et je vous promets que au milieu des dépaysements, au milieu des chocs culturels en cascade, on découvre un Dieu plus grand encore et un Jésus plus berger. Alors, l'autre, la vision. Après, on continue dans ce verset, il dit, celle-là aussi, il faut que je les amène. Alors, on a perdu un petit quelque chose dans la traduction. En fait, ce qu'il dit, c'est, pour moi, les amener, il le faut. C'est une nécessité. D'accord? Il est venu pour ça, c'est sa raison d'être. C'est la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. Il le ressent au plus profond de lui, c'est sa passion. Le zèle de ta maison me dévore. Vous vous souvenez ce moment où il a chassé les vendeurs du temple parce que cet endroit du temple aurait dû être réservé pour les nations qui viendraient, qui voudraient en savoir plus. Mais c'était réservé. Le peuple avait pris la place, avait rempli cette place pour leur bidouille. Donc, pour moi, les amener, c'est une nécessité. Ça veut dire que c'est aussi nécessaire que de boire, manger pour vivre. C'est aussi nécessaire que d'être en communauté pour grandir, pour s'épanouir. Pour moi, les amener, c'est une nécessité. Je ne sais pas si vous ressentez l'urgence, la passion, le zèle qui dévore Jésus derrière cette phrase et qu'il est en train de transmettre. Il n'est pas juste en train de dire « Oui, moi, je vais faire ça de votre côté, faites ce que vous voulez. » Il est en train de leur transmettre, de leur donner un héritage, une passion, un zèle. On va faire un petit peu d'histoire, je vous ai dit tout à l'heure, hein, avant, j'aimais pas l'histoire, mais en suivant ce cours, vraiment, c'est assez incroyable. On voit que chaque fois que l'Église se reposait sur elle-même, ce Dieu qui est passionné pour que sa gloire éclate dans le monde a poussé l'Église à sortir, qu'elle le veuille ou non. Vous voyez ici, par exemple, les disciples juifs qui aimaient cet entre-soi, cet entre-nous, qui commençaient à comprendre qu'ils sont les héritiers spirituels d'Abraham. Jésus leur dit, à ce moment-là, il frappe fort, il leur dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, vous allez accueillir des frères païens. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Bim! Et puis quelques années plus tard, quand l'église commence à grandir à Jérusalem, ils deviennent 5000, et qu'elle semble ne pas vouloir sortir de cette zone locale, alors que le maître avait dit dans Actes 1, 8, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie. Et qu'est-ce qui se passe? Vous inversez les chiffres, Actes 8, 1, c'est intéressant de voir le lien. Il y eut une grande persécution ce jour-là contre l'église qui était à Jérusalem. C'est intéressant que Luc dit l'église qui j'ai l'impression qu'il dit qu'il restait dans la frontière locale de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Et où ça, je vous le donne en mille, je continue de lire le verset, ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Exactement là où Jésus leur avait dit d'aller, là où il les attendait. Et vous avez lu le livre des Actes, ils étaient prêts. Il y a eu des conversions. Lorsqu'au Moyen-Âge, l'Europe du Sud, chrétienne, craignait de quitter ses frontières pour aller évangéliser au Nord les Vikings sanguinaires, brutaux, et restait dans ses frontières, qu'est-ce qui s'est passé? C'était sans compter la passion, le zèle de Jésus pour ramener des brebis de cette bergerie là aussi. Alors, puisque l'Église n'allait pas à eux, Dieu a permis que les Vikings descendent, brûlent beaucoup de choses sur leur passage, mais ramènent avec eux des femmes chrétiennes pour faire la prochaine génération de Vikings et des moines pour les éduquer. Quelle ironie! Ils ne se rendaient pas compte, ces Vikings qui étaient les plus forts, l'ennemi, le pire ennemi de l'époque, qu'ils ramenaient avec eux la puissance de Dieu, quelque chose de plus fort qu'eux. La puissance de Dieu à travers la fragilité de ses témoins. En 400 ans, la bergerie viking connaissait désormais la voix de son maître. Et beaucoup de chrétiens, autrefois vikings, allaient vraiment influencer l'Europe. Au moment où les agences missionnaires et les églises se contentaient des succès remportés sur les côtes, Jésus, Dieu, dit à Hudson Taylor, « J'ai encore d'autres brebis ». D'autres bergeries, plus à l'intérieur des terres en Chine, et il est allé, et il a parlé à David Livingstone, à Charles Studd, en Afrique, pareil, plus à l'intérieur des terres, pour faire de même. Et encore une fois, on passe un peu le temps, et au moment où la chrétienté occidentale commençait à se réjouir de ce qu'au XXe siècle, on dit que l'évangile est dans tous les pays, et très certainement, il l'est dans les pays, en tant que, voilà, pays politique. Mais Jésus, encore une fois, c'était sans compter cette passion qu'il a cherché d'autres, toutes les bergeries, toutes les nations, y compris ce qu'on appelle les minorités ethniques. Oui, elles parlent la langue officielle, mais c'est pas leur langue maternelle. Et il a dit à Cameron Townsend, il faut aller les atteindre aussi, ils ne comprennent pas. La minorité, la majorité ethnique, il y a des difficultés. Le Nigeria, 540 ethnies, 3 ethnies majoritaires. Peut-être évangéliser, et toutes les autres, et toutes les bisbilles dans leur histoire. Il faut aller leur parler aussi à elles. Et alors Cameron Townsend a fondé l'agence Wycliffe de traduction de la Bible pour que ces gens qui passaient inaperçus se voient. Et Ralph Winter, le fondateur du cours, a interpellé aussi au mouvement de Lausanne en 74, aussi a interpellé sur, on n'appelait pas encore ça à l'époque, les peuples non atteints, on parlait des peuples cachés, des peuples hidden peoples, les peuples cachés, parce que ceux qu'on ne voit pas, parce qu'ils ont leur propre culture, mais comme ils parlent la langue officielle du pays, ça passait inaperçu. Et chaque fois que l'église était bien installée, Jésus a dit, ah les gars, j'ai d'autres brebis ailleurs. Et Jésus s'est trouvé des disciples pour réveiller l'église et l'envoyer là où elle n'existait pas encore. Y a-t-il des disciples qui entendent encore cette voix-là? Parce qu'il y a encore, vous avez vu, tous ces peuples, 7200 peuples, qui attendent qu'il y ait assez de chrétiens parmi eux, parfois il n'y en a pas du tout, qu'il y ait assez de chrétiens, qui soient capables de parler à leur propre nation, mais pour l'instant, ils ont besoin de chrétiens d'ailleurs. L'Église ressent-elle la nécessité d'amener à Jésus des brebis de toutes les bergeries, pas seulement notre bergerie? On est en danger, parfois, dans l'Église. Le danger, c'est de s'émerveiller tellement du bon berger de Jean 10, hors ce verset-là, qu'on devient sourd à cet appel passionné, à cette bombe qu'il a lâchée dans ce discours-là du bon berger, d'aller chercher des brebis des autres bergeries. Le danger, c'est de faire comme le monde nous enseigne, hein, se replier sur soi, le confort d'être entre nous. Mais l'histoire le montre, les églises qui ne se sont occupées que d'elles tendent à disparaître. Alors avant de disparaître, elles créent leurs propres problèmes puisqu'elles regardent leur propre nombril, donc il y aura toujours des choses à critiquer. Quand une église, plus une église ne passe son temps à ne regarder qu'elle, plus elle trouvera des problèmes et elle implose. Je l'ai vécu. Le danger, c'est de croire qu'il suffit de donner des œuvres pour cocher la case mission et ne pas être sensible à cette mission. Le danger, c'est de nous délecter des bénédictions de Dieu au point d'oublier qu'elles sont destinées à faire de nous une source de bénédiction. Pour celle-là aussi. Alors on a vu cette vision, cette sensibilisation à l'autre que Jésus donne, on a vu cette passion que Jésus veut transmettre, et maintenant on voit l'espérance. Parce que ce verset, c'est pas juste un aiguillon pour une épine sur nos chaises d'église confortables, c'est pas ça, c'est une espérance en réalité. Il est plein d'espoir, il est plein de puissance. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, on revoit à nouveau cette carte. Tous ces points rouges, donc je vous ai déjà dit, hein, 7200 peuples, 42% de la population mondiale. Et là, les chrétiens locaux, s'ils existent, sont en trop faible nombre, vraiment, pour influencer leur nation. Alors, comme Lenny vous a dit, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pas comme ça du tout que Dieu fonctionne. Mais imaginez, avec ce verset que Jésus a dit, imaginez Jésus qui voit cette carte. Lui, ce qu'il voit, c'est des bergeries. Il dit, j'ai des brebis là. Elles vont entendre ma voix. C'est cette espérance-là qui a motivé Jésus. Dans Hébreux, il est dit qu'il a souffert en vue de la joie à venir. Il n'a pas souffert parce qu'il faut, ou parce que c'est bien, ou parce que c'est moral. Il a vu parce qu'il y a une grande joie qui va venir. Le psaume 22, vous le connaissez, hein, vous connaissez le premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toute la première partie du psaume, c'est la description de la crucifixion des siècles avant. Et la seconde partie, je suis sûr que vous la connaissez moins. Et pourtant, c'est l'espérance. J'annoncerai ta justice dans la grande assemblée. Et il y a plusieurs versets, et ça finit comme ça. Et c'est cette joie à venir d'une grande assemblée mondiale. Et c'est pour cela que la première partie de ce psaume a existé. Et c'est exactement ce que Hébreux nous dit. Il a souffert cette croix en vue de la joie à venir. Et dans Jean 10, 16, il leur dit, j'ai une vision, j'ai une passion, mais j'ai une espérance, et cette espérance-là qui me pousse. Et nous voulons, je dis nous, Lenny, le cours Perspective, tous, nous voulons transmettre cette espérance. Nous voulons vivre et lire et comprendre le message de Dieu, l'appel de Dieu à travers l'espérance. Si nous sommes venus à Dieu, c'est pas parce qu'on nous a dit tu dois, c'est parce que Dieu nous a attirés à lui. Avec des promesses merveilleuses que le monde et aucune autre religion ne peut nous promettre. Donc, il a vu cela. Donc, voilà, ces brebis ne le connaissent pas encore. Elles sont en quête de sens pour leur vie. Elles ploient probablement sous la condamnation de leurs péchés et sentent bien que les rituels de leur religion ne les purifient pas de l'intérieur. Hier, j'étais avec des candidats à la WEC, à la mission. On a fait un cours sur l'islam et je leur ai raconté comment vous allez sur les forums de musulmans et le nombre de musulmans qui se posent des questions, qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que l'islam ne permet pas d'avoir une relation personnelle avec Allah. Il est transcendant. Il peut pas être un père. Vous savez, il y a 99 noms. Vous savez, hein, ça, les 99 noms. Des 99, il n'y a pas les deux caractéristiques qui caractérisent notre Dieu biblique. Père et amour. Ils sont pas là, ils peuvent pas. Et quand on leur dit, moi je prie avec mes mots, un père de manière volontaire, de manière spontanée, quand il le faut, quand je le veux, quand je suis inspiré, ah bon, eux ils ont 5 moments, hein, 5 prières, et c'est comme ça, ils sont hyper ritualisés. Et vous allez sur les forums, et voyez ces questions qui se posent, qui sera là pour leur répondre? Pire, dans l'islam, il est interdit de remettre en question le Coran, la religion, le prophète. Ça s'appelle l'intangibilité. C'est vraiment un dogme. Ça s'appelle l'intangibilité du Coran. Il est intouchable. Donc, vous avez les seules réponses que reçoivent ceux qui se posent des questions et les envoient sur les forums, c'est des centaines de réponses de musulmans qui disent « Mais tu peux pas faire ça, t'as pas le droit, c'est péché, arrête, l'imam il sait, t'inquiète, t'as pas à te poser ces questions-là, ne te demande pas ça, continue à suivre les règles et Inch'Allah, tu iras peut-être au paradis si, voilà, si Allah le veut. » Voilà. Et c'est des centaines comme ça, avec des menaces parfois. Donc, la moisson est là, ils sont prêts. Mais il faut aller voir l'autre. Il faut être sensibilisé à l'autre. Et Jésus, là, il leur dit, il y a une espérance. Donc, c'est pas, voilà, je me suis fait piéger, j'ai dit, il faut. Ouais, mais Jésus, il n'a pas dit ça, il dit, ils vont entendre. Et en fait, la conclusion logique, c'est les disciples qui, petit à petit, commencent à être sensibilisés. Puis quand l'esprit viendra, waouh, ça va, il va y avoir le déclic, ça va être « je veux ». Vous voyez, il n'y a pas de « tu dois ». Quand tu lis la Bible, de la manière dont Dieu l'a donnée, l'a déroulée, avec espérance, il n'y a pas de « tu dois », il y a un « je veux ». Pensez les 134 millions de cheikhs au Bangladesh. Et parmi eux, Jésus a des brebis. Et donc, je disais, ah voilà, il voit ça. Ah oui, là aussi, oui, pour vous c'est un point rouge, mais moi je les vois, il y a des brebis, il va y avoir une église. Et Jean, il a eu cette vision dans Apocalypse 7. J'ai vu une assemblée qu'on peut pas compter. C'est merveilleux, hein. Nous, on est là, les pourcentages et tout. Non, on peut pas compter, c'est impossible. Arrêtez vos stats. Ils étaient là. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils étaient là de toute nation, toute langue, toute tribu. Ils seront là. Et Jésus commence déjà à planter la graine de l'espérance. Parce qu'après, il va leur dire, vous serez mes témoins. Il leur dit pas, soyez mes témoins, là encore une fois. Il dit, vous serez mes témoins. Vous avez tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est la sensibilisation. Entendre la voix du berger. Et vivre avec l'espérance. L'espérance, c'est comme un treuil. Moi, je vois ça comme un treuil. Vous imaginez que votre vie chrétienne, c'est comme une voiture. Normalement, c'est Christ qui conduit, mais ce jour-là, vous décidez de prendre le volant, comme ça nous arrive tous. Et puis, on se retrouve dans, on est plus dans la, sur la route. On se retrouve dans un sentier, puis pouf, on s'enlise dans la boue. Dans la forêt. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous poussez, et c'est ce qu'on essaye de faire parfois, on se fatigue, on s'épuise, on se dit « mais il faut, je dois », on suit des valeurs chrétiennes. Mais suivre des valeurs morales ou religieuses, ça fait de nous quelqu'un de moral ou religieux, pas spirituel. Et puis la deuxième option, c'est de se souvenir « ah oui, j'ai un treuil dans le coffre ». Et tu prends le treuil, il s'appelle l'espérance. Tu l'accroches à l'arbre et ton seul effort, ce sera d'appuyer sur le bouton. Et c'est ça, il t'attire. Et c'est un peu comme ça, je sais pas si je suis clair hein, dans mes métaphores, mais c'est un peu comme ça que je vois la vie chrétienne, se laisser attirer par l'espérance, par la voix du bon berger, plein d'espérance. C'est l'espérance. Dieu nous a attirés à lui. Donc, on a vu trois choses. Je vais revenir, voilà. La première, c'est que ce texte de Jean chapitre 10 cache une surprise en plein milieu d'un magnifique discours sur une relation personnelle entre mon bon berger et moi. Il lâche cette phrase qui nous dit « Ouah, j'en ai d'autres aussi, tu vas voir, ça va être magnifique, l'amour va se multiplier. Viens avec moi. » Il y a toujours un gars dans la bande qui dit hey, si on allait voir aussi un peu plus loin. Donc c'est une déclaration d'amour et en même temps, c'est pas du cocooning. Intéresse-toi à celui qui ne te ressemble pas. En tout cas, ce que ça révèle aussi, ça, vraiment, vraiment, j'en reviens pas encore aujourd'hui que cette phrase-là ait été placée au milieu de ce discours. Et moi, ça me montre qu'on ne peut pas séparer le bon berger du berger missionnaire. On a une tendance à cloisonner. Je crois que c'est ça un peu qui nous tue aussi, parce que qui casse un peu les puissances. Parce qu'en fait, la vie chrétienne, la Bible, le message biblique, les doctrines entre elles, c'est des synergies. C'est de l'interdépendance. Et plus on va cloisonner nos ministères, nos façons de voir, plus on va se couper, on n'aura pas de synergie, il n'y aura pas la puissance d'un ministère qui va aider la puissance d'un autre. Je pense des gens qui sont hyper doués dans leur métier, qui sont très pratiques, bricoleurs, puis ils arrivent à l'église, ils disent « bon, moi je suis juste un auditeur, ouais c'est bien, ouais ils sont forts sur la scène et tout, mais en réalité l'église a besoin de leurs dons, de leurs compétences aussi. Mais des fois, il y en a, le simple fait d'entrer dans l'église, ils oublient qui ils sont, dans la vie en se disant, ben oui, mais moi en tant que chrétien, bon, ben voilà, oui, je prie. Non, mais Dieu a pourvu tellement. Maintenant, on part en mission, d'abord les pays sont très fermés, donc il faut trouver aussi des moyens créatifs, et on part en mission, on a besoin, pas forcément juste de proclamateurs qui ont fait 10 ans d'études de théologie, et j'encourage à faire des études, évidemment, c'est pas ça que je veux dire, mais on a besoin de coachs sportifs. On a besoin de plein, on a plein de petites annonces à la WEC et puis sûrement dans les autres missions qui vous surprendraient, quoi. On a besoin de profs de français, de profs d'anglais. Voilà. Donc, y a pas de séparation, quoi. On a vu aussi, après cette vision, on a vu une passion. On a constaté le désir passionné de Jésus pour sa mission. Et ce qu'il est en train de faire là, il transmet le feu à ses disciples. Parce que évidemment, lui va remonter au ciel, mais nous serons les pieds, les mains, la voix de Jésus. Alors, et puis aussi une motivation, une vision, être attiré. Je trouve que notre plus gros travail, c'est de ne pas faire d'efforts. Je suis dans un groupe de croissance internationale et ça fait 4 mois que j'y suis et c'est très difficile, on est missionnaire, il y a énormément de besoins, mais bon, on connaît tout ça, il y a des pressions de partout dans nos vies et il faut faire. Et comment on peut être plus efficace? Bon, ben faisons plus, une réunion de plus pour réfléchir à être plus efficace. Enfin, bref, on ajoute quoi, de l'huile sur le feu. Et là, ce groupe nous apprend à dire, alors, il faut défaire, il faut ralentir. Il faut apprécier, accueillir la solitude, l'immobilité, conduis plus doucement, mâche plus quand tu manges. Même jusque-là, c'est fou. Moi, je sais pas vous, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se rendent même pas compte. Une fois qu'ils ont commencé la première bouchée, c'est déjà terminé. Je crois que ça vient des études où il fallait aller très vite aussi. Enfin, bref, voilà. Donc, il faut redevenir intentionnel, réaccueillir ce que nous sommes en train de faire sans penser à autre chose en même temps. C'est très dur, hein? C'est très dur. Je crois que c'est le plus gros effort de faire moins d'efforts. Et une des façons de faire, c'est la vision d'espérance, je trouve. Plus que de vouloir bâtir l'Église avec Jésus, de laisser Jésus bâtir son Église et de participer, évidemment, et de se laisser attirer par cette espérance que Jésus essaye de donner. Et puissions-nous être portés au-dessus de tous les obstacles et découragements par cette grande confiance que le Seigneur lui-même rassemblera les rachetés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène aussi. Elles entendront ma voix. Ne gaspille pas, ne gaspille pas ce temps ici-bas, cette jeunesse ou cette retraite que tu as. Nous sommes aussi sa voix, ses pieds, ses mains. Et tu peux le devenir. Juste, je finis avec quelque chose de pratique. Vous savez, je suis sûr que vous avez des smartphones, des iPhones, plein d'applis. Est-ce que vous avez des applis pour vous encourager à penser à autre chose que des applis qui vous servent? Des applis qui servent aussi. Donc voilà, par exemple, une appli qui sert le plan mondial de Dieu. Bon, j'avais mis le QR code, mais on peut en reparler, vous le trouverez de toute façon. Voilà. On n'est jamais assez petit, on n'est jamais trop petit pour Dieu, on n'est jamais trop incompétent pour Dieu. Dieu a pourvu à tout. Il faut juste l'écouter, lui demander et attendre, et voilà, rester dans l'immobilisme, la solitude, le silence aussi. Que Dieu nous fasse grâce, encore une fois. Il est ce bon berger, mais il a un bon berger en mouvement.